Les archives d'Afrique, à la FOCA.
Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la deuxième partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
By our definition, your question does not, excuse me to say, make sense, since power cannot be passed from hand to hand. Ghanaians are learning to exercise their power, certainly with mistakes, but things are beginning to settle.
D'après notre définition de pouvoir, votre question n'a pas d'objet, puisque le pouvoir ne peut se transmettre de la main à la main. Les Ghanéens sont en train d'apprendre à exercer le pouvoir, certainement en faisant les erreurs, mais les institutions commencent à prendre forme.
Après avoir rendu le pouvoir aux civils une première fois, le capitaine Jerry Rawlings, qui renverse le régime de Hilali Man en cette nuit de la Saint-Sylvestre 1981, vient cette fois-ci pour une autre raison beaucoup plus importante que le nettoyage de la maison dont il avait parlé lors de son premier putsch. Cette fois-ci, il s'agit d'une révolution. Mais laquelle, puisque le flamboyant capitaine d'aviation, mis à la retraite à l'âge de 32 ans, veut matérialiser, veut rendre concret ses discours enflammés. Il veut cette fois faire évoluer la condition des masses qui lui font confiance, qui approuvent son coup d'État. Suite et fin de notre série en deux parties consacrée au président John Jerry Rawlings. Orateur emporté, le jeune révolutionnaire romantique qui prône le retour à l'idéologie tiers-mondiste de Kwame Nkrumah, qui reprend le pouvoir ce 31 décembre 1981, va très rapidement, devant les attentes de son peuple, revoir sa copie. Les envolées idéologiques, c'est beau, mais le plus important est d'améliorer la condition des gagnants. C'est pourquoi il capitule face aux lois du marché. C'est le pragmatisme. Jerry Rawlings, qui critiquait le système économique mondial, va se résoudre à négocier avec les bailleurs de fonds internationaux. En 1983, il est ainsi le premier pays d'Afrique à mettre en œuvre le plan d'ajustement structurel. Les critiques contre le révolutionnaire qui se serait embourgeoisé se multiplient dans la presse. Une critique que balaie le président ghanéen pour qui, lorsque vous vous noyez et que l'on vous tend une corde, vous devez l'attraper pour sortir de l'eau. Cela ne fait pas pour autant de vous un obligé de votre sauveur. Joyce Arié, une de ses ministres.
It is not the IMF which has written our economic recovery program for us.
Ce n'est pas le FMI qui a écrit notre programme de reconstruction économique. S'il y a inflation, si vos exportations sont faibles, vous n'avez pas besoin du FMI pour le savoir. Si votre monnaie est surévaluée, vous n'avez pas besoin non plus du FMI pour vous en rendre compte. Si par exemple vous devez emprunter à une banque, vous êtes obligé d'accepter les conditions du prêteur. Naturellement, l'application de mesures d'austérité ont des conséquences politiques et c'est à chaque pays de les assumer. Nous étions arrivés jusqu'à une certaine limite et nous avons réalisé qu'au-delà de cette limite, il fallait soit être austère, soit tomber au fond du gouffre. Nous avons préféré ne pas sombrer dans le gouffre et être durs avec nous-mêmes. Je peux vous assurer que lorsqu'on a atteint un point de non-retour, vous n'avez pas besoin du FMI pour vous le faire savoir. Vous savez que vous êtes obligé de prendre des décisions.
We had gone to a certain limit. We realized that beyond that limit, it was either getting back and being austere with yourself or falling into a pit. We preferred not to fall into the pit. So we decided that we will be hard on ourselves.
Ce plan d'ajustement structurel est en tout cas un succès. Le pays se modernise et la population des villes et des campagnes salue le changement.
Il s'agit de changement qui vient quand les peuples réalisent qu'il faut un changement comme ça. Par exemple, dans le domaine économique, dans le temps où il y avait cette révolution, le petit peuple souffre beaucoup. Maintenant, je ne peux pas dire que nous avons saisi de souffrir, mais peut-être je dirais que les conditions, les choses sont améliorées un peu à peu. C'est un temps où tout le monde doit être conscient du fait que tout dépend de nous, le peuple, de changer notre attitude.
Sur le plan international, le président Jerry Rawlings commence à être cité en exemple. Mais cela ne fait pas de lui un élève des institutions de Bretton Woods, qu'il ne lui ménage pas leur aide. Ses amitiés, il les garde. Ainsi, il est avec Fidel Castro à Cuba, avec Muammar Kadhafi de Libye, ou encore avec Thomas Sankara, le jeune capitaine du Burkina Faso, qu'il appelait affectueusement le Jerry du peuple. Il sera d'ailleurs profondément affecté par la mort de ce dernier en 1987. Il se rend également en Guinée à la rencontre de Sékou Touré.
Le micronationalisme n'a fait qu'éparpiller les énergies créatrices des peuples d'Afrique. Malgré que la plupart des pays aient hissé le drapeau de l'indépendance, l'Afrique a encore subi la loi économique de l'étranger. Nous demeurons encore des peuples prolétaires, déshérités, parce que divisés, affaiblis. Nous ne participons même pas à la fixation des prix de nos productions africaines. Et l'étranger acheteur de nos matières premières qui fixe arbitrairement le prix auquel elle accédera à ses matières premières. Et l'étranger ne nous associe pas non plus à la fixation des prix des équipements, des marchandises que nous lui réclamons. Et là, nous sommes courbés sous le soleil, sous la pluie, à travailler, à produire, et l'étranger tire plus de profit de nos sueurs que nous-mêmes. Voilà le vrai problème que doit résoudre l'Afrique. Nous avons souffert de la division. C'est pourquoi nous devons savoir conserver les liens d'unité entre nos peuples et nos États. Pour ce faire, nous ne devons pas accepter de nous aligner sur qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Nous devons assumer notre identité, notre personnalité, notre responsabilité dans l'histoire. Et si nous sommes des peuples comme tous les autres peuples, nous devons rester solidaires avec tous les peuples et accepter à tous les hommes, de quelque couleur, de quelque nationalité qu'ils soient, de vivre en paix, en tranquillité sur nos sols respectifs.
Si le capitaine révolutionnaire continue de fréquenter certaines tribunes où fusent des slogans socialisants contre le système, il sait dans le même temps que la mobilisation des masses peine à relancer l'économie. L'aviateur turbulent montre alors qu'il est aussi un as de la voltige en politique, briguant les faveurs de la Banque mondiale et du FMI. Il applique au milieu des années 80 un programme drastique des réformes libérales et obtient en échange des aides massives.
Well, I wish I could have said this earlier on, but I don't know. There's a way in which such a question and such an answer becomes, for want of a better word, if I may use the word, irrelevant, in the sense that with the efficient technology at your disposal.
La technologie efficiente d'aujourd'hui qui est à votre disposition n'est rien d'autre que la civilisation occidentale qui s'impose au reste du monde. Que vous soyez dans le bloc de l'Est, en Afrique ou n'importe où, nous avons des relations historiques avec la civilisation occidentale de toute façon. Et même si nous en avons tiré des bénéfices, cela nous a aussi causé beaucoup de dégâts sur l'identité africaine. Vous pouvez prendre dans une société ce qui est bien et utile et vous débarrasser de ce qui vous déplaît. Une fertilisation croisée est en train de prendre place au niveau global d'un point de vue culturel et autre. Mais ce que nous devons cependant faire, c'est être capable d'extraire et de reconnaître ce que cela peut nous enlever et essayer de minimiser ces effets négatifs sur notre niveau de développement, sur notre développement social. Nous ne pouvons pas nous permettre le niveau des goûts occidentaux que notre population veut acquérir.
We cannot afford the level of Western taste that our people have acquired. We cannot.
En quelques années, l'aviateur turbulent, le révolutionnaire des débuts, est devenu un président fréquentable à qui l'on prête volontiers. Les Ghanéens retrouvent une certaine stabilité. Pourtant, certains continuent de lui poser la question de savoir s'il va remettre le pouvoir comme la fois précédente aux civils. Si sa mission accomplie, il va à nouveau se retirer. Voici sa réponse.
By our definition, your question does not, excuse me to say, make sense, since power cannot be passed from hand to hand. Ghanaians are learning to exercise their power, certainly with mistakes, but things are beginning to settle.
D'après notre définition de pouvoir, votre question n'a pas d'objet. Puisque le pouvoir ne peut se transmettre de la main à la main, Les Ghanéens sont en train d'apprendre à exercer le pouvoir, certainement en faisant les erreurs, mais les institutions commencent à prendre forme. Le gouvernement ne peut et ne fait qu'aider le peuple à bâtir les structures qui lui permettent d'utiliser effectivement son pouvoir.
All that the government can do and is doing is to help the people to evolve the necessary structures which will enable them to use their power more effectively.
Devenu l'enfant chéri des institutions internationales, Jerry Rawlings continue sa mutation, mais cette fois-ci sur le plan politique.
Let's put it this way. I don't know how you'll feel about it, but I would have been surprised if the opposition had ended up in parliament because they had become so irrelevant, and the fact that hardly anybody voted for them came as no surprise to us, you know?
So where can you find in Ghanaian politics that exchange?
No, that is not to say that opposition has not always taken place within ourselves during the time of the PNDC and after. No, don't make that mistake at all. We don't need a supposed opposition. I mean, this kind of opposition is destructive. It's not creative. It does not offer constructive criticism. It's how to pull you down. Yes. And if they want to pull you down using facts, using truths, I don't mind. But using false information, fabrication, distorted misinformation is just not healthy, you know, for a developing country like ours. I mean, that is not to say that criticism has never, you know, existed amongst us. It's always been there. We've always taken each other on. That kind of situation has always existed. And mind you, let me go beyond it by saying that this so-called pluralist, whatever it is something that I'll say that we indirectly forced on this country. We don't need it, because this country has seen both the one-party state before. This country has seen the multi-party state before. This country has seen military regimes before. And most of them have just disappointed our people until we had the revolt. So that, to be honest, our people didn't want to see anything to do with a party system or even so-called military coups anymore. We had introduced a newer, healthier level of democratic relationship, you know, horizontally as well as vertically. You know, that had become so productive, so creative. That's why we made so many gains during the period of the PNDC.
L'ancien putschiste innove en instaurant le multipartisme. Celui qui, dans sa période révolutionnaire, était quelque peu séduit par les théories de Kadhafi, qui considère que la représentation est une négation de la démocratie, va faire adopter en 1992 une constitution et démissionner de l'armée pour participer au scrutin présidentiel qu'il organise. Il est élu avec un score de 58%, ce qui lui donne enfin une légitimité populaire. Joyce Ayrié était l'une de ses ministres.
It is important to realize that there's a new sense of political awareness. People feel now that they can say much more, or they feel more involved than they were before.
Il est important de réaliser qu'il y a une prise de conscience politique. Le peuple sent maintenant qu'il peut beaucoup plus s'exprimer et il se sent beaucoup plus concerné qu'auparavant. Avant, il suffisait de mettre un bulletin de vote dans l'urne en faveur de quelques personnes et ces gens prenaient toutes les décisions pour vous. Maintenant, le peuple a le sentiment qu'il peut participer à ce qui se passe. Je pense que c'est un premier pas très important vers la démocratie que nous avons réalisée, bien que nous soyons conscients qu'il n'est pas encore achevé. Le désir de mobiliser les efforts de chacun pour le développement s'est également développé. Ce désir de participer à l'amélioration des conditions matérielles dans le pays est très important. En général, quand il y a stabilité politique dans un pays, vous vous apercevez que l'activité culturelle se développe. Vous trouvez des auteurs dramatiques, des cinéastes qui essayent de créer. L'instinct de créativité des gens se développe et c'est ce qui se passe actuellement au Ghana. Même parmi les jeunes, les écoliers par exemple, ils commencent à prendre conscience et je pense que cela est très positif.
Even amongst young people, like school children, they are also beginning to have a certain new sense of awareness. And I think this is basically very good.
L'ancien révolutionnaire est désormais fréquentable par tous et réagit aux problèmes qui touchent le continent, comme l'expulsion des Africains d'Europe. Sur la question de la gestion des flux migratoires par le vieux continent, Jerry Rawlings garde sa passion de jeunesse, la fougue qui le caractérise.
Take a look at Europe. While you needed our skilled technicians and doctors, you never raised any hue and cry about, you know, being overcrowded with aliens.
Prenez l'exemple de l'Europe. Quand vous aviez besoin de nos techniciens qualifiés et docteurs, vous ne vous êtes pas plaint d'être submergé d'étrangers. Maintenant, vous cherchez les moyens de fermer les frontières. Je me souviens, il fut un temps en même temps de la BBC présentant une émission sur les problèmes du sida avec des interviews de personnes dans la rue, quelque part en Angleterre. Dans cette émission, transmise en Afrique, entre autres, les passants disaient que les Africains et leur sida devaient quitter leur pays et rester sur leur continent, comme si nous étions responsables de la propagation de cette maladie. Lorsque j'ai entendu cela, j'étais très en colère. J'étais aussi en partie content. Je voulais que mes concitoyens se réveillent, enfin, et se révoltent. J'espérais que mon peuple se rende compte que les Européens utilisaient cet argument pour les exclure encore un peu plus. J'espérais seulement que dans leur colère, ils décident de ne plus aller vivre en Europe. Mais cela n'a rien changé.
So there I was, as angry as I was hoping that something like this, you know, would invoke so much anger in my people, they wouldn't want to go there. They'd stay here. But I don't think something like this makes any difference.
En 1996, c'est haut la main que Jerry Rawlings remporte les nouvelles élections présidentielles. Cette fois-ci, la victoire est plus nette. Son parti, le Congrès national démocratique, va rafler 133 des 200 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale.
Measure my person in this political situation in relation to what my country has achieved. We have, of course, made quite a few material gains.
De mon point de vue, dans cette situation politique en relation avec ce que mon pays a accompli, nous avons bien sûr eu beaucoup de succès. Mais je pense que celui qui m'a donné la plus grande satisfaction est le niveau de confiance de notre peuple. Je parle de la spiritualité de l'humanité. Si vous étiez avec nous il y a quelque temps, je veux dire avant le début de notre révolte, vous auriez compris de quoi je parle. Parce qu'une nation ou un peuple désespéré, c'est un peu comme un peuple émasculé. Il ne peut être créatif. En d'autres mots, la société doit avoir la capacité de défendre sa liberté. Une société doit être capable de résister dans le but de défendre sa liberté dont dépendent, en gros, sa créativité et sa maturité. Et je pense que c'est sur ce terrain que j'ai réalisé le plus de succès. Sans ce facteur humain, rien d'important ne peut être fait par le peuple.
In the sense that without this human factor, very little can come out of a people.
Désormais, le révolutionnaire Assagi est l'un des plus fidèles alliés des États-Unis d'Amérique avec l'Ouganda de Yoweri Museveni. Il va d'ailleurs recevoir triomphalement le président Bill Clinton qui fait étape à Accra pendant sa tournée africaine de 1998. Il recevra également la reine d'Angleterre, mais cela ne change rien à son caractère emporté. On se souvient de Jerry Rawlings qui a cassé la figure de son vice-président Kao Kentsi Accra en plein conseil des ministres en 1995. Mais dans le même temps, l'économie nationale s'est progressivement redressée. Le taux de croissance est de 5%. Fini les pénuries alimentaires et les files d'attente devant les stations d'essence. Les investissements extérieurs affluent et le CEDI, la monnaie locale, s'est stabilisé. En 2000, c'est toute la communauté internationale qui scrute du côté du Ghana pour voir si Jerry John Rawlings cédera comme prévu le fauteuil au terme de son second mandat. Là encore, l'ancien pilote qui organise le scrutin va respecter ses engagements.
Je suis conscient de l'extrême importance de cet événement qui va consolider nos aspirations démocratiques sous les yeux du reste du monde. Cette communauté internationale qui est devenue sceptique sur la capacité de l'Afrique, et surtout de l'Afrique noire, à tracer un chemin viable vers la démocratie pour les générations à venir. Peu importe où l'avenir nous conduira après janvier 2001, je vais toujours chérir l'espoir que le Ghana restera le bijou qu'il est devenu.
À 54 ans, Jerry John Rawlings quitte Ferrare en Afrique, le château présidentiel, pour céder sa place à John Kwofor, puisque les élections ont été remportées par l'opposition. Son vice-président, qui était dans la course, ne lui succédera donc pas. Le vieux révolutionnaire qui a pris un peu d'embonpoint et qui a troqué son uniforme militaire pour le pagne traditionnel ghanéen va quitter la scène internationale et ne réapparaîtra dans la presse internationale que lors d'une brève comparution devant la Commission nationale de réconciliation en 2004. L'ancien président qui entretient avec son successeur des rapports difficiles vient s'expliquer devant une salle pleine à craquer sur les exactions commises sous les régimes militaires successifs qu'a connus le pays. Son audition n'a duré qu'une quinzaine de minutes. Aujourd'hui, il coule une vie plutôt paisible dans son pays, avec bien sûr les sollicitations et les consultations qu'impose son rang. Et qui sait, probablement reviendra-t-il sur le devant de la scène. Mais ceci est une autre histoire. Delphine Michaud, Fouque Nguyen et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui.